Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, ici Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet de saison, votre pelouse. Pour cela, j'accueille Christian Rotureau, responsable du service Nature en Ville de La Roche-sur-Yon. Avec des centaines d'hectares de gazon, il a forcément de bons conseils pour entretenir correctement votre pelouse de manière plus écologique. Qu'est-ce qu'un gazon? Comment l'entretenir? Est-ce qu'il faut l'arroser? Comment le tondre moins souvent? C'est parti pour un petit tour au ras des pâquerettes. Bonjour Christian, merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte. On est ravis de vous avoir et on va parler d'un sujet de saison, la pelouse, mais avant peut-être vous présenter et nous présenter surtout où vous travaillez.
Bonjour, je m'appelle Christian Rotureau, je travaille au service Nature en Ville de La Roche-sur-Yon. C'est le service espace vert de la ville de La Roche-sur-Yon en Vendée, à 30 km de l'océan.
Parfait. Et alors nous, on s'est rencontrés déjà il y a quelques temps. On ne va pas tout dévoiler, mais parce que La Roche-sur-Yon a eu un prix, et même plusieurs prix, on va pouvoir en parler, liés aux espaces verts et donc à la végétation qu'il y a sur La Roche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
La ville de La Roche-sur-Yon est une ville de 56 000 habitants. C'est une ville, on va dire, nouvelle, parce qu'elle a été créée par Napoléon en 1804. Donc elle a un tracé napoléonien. C'est une ville très, très verte. Tous nos prédécesseurs ont su garder un petit peu les haies bocagères d'autrefois. Donc on a une trame paysagère et une trame verte très forte dans la ville. Donc on a été récompensé dernièrement par deux prix, par le prix du CNVVF, du Conseil National Ville et Village Fleuri. Donc on est quatre fleurs et on a eu la fleur d'or en 2020. Et puis en 2021, on a eu un prix décerné par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et nous avons été élus capitale française de la biodiversité.
Félicitations. Et nos auditeurs pourront découvrir un peu plus sur ce prix du coup dans le prochain numéro. Mais aujourd'hui avec vous, on va parler d'un sujet qui est un peu de saison. On va parler pelouse. Alors comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais déjà peut-être savoir qu'est-ce que c'est une pelouse en fait. Pourquoi on a des termes différents, le gazon, la pelouse. Qu'est-ce que c'est la pelouse qu'on a chez soi en fait?
Alors le gazon, si on va à la recherche du mot gazon, si on regarde sur le dictionnaire, le gazon, c'est une herbe rase en montagne. Ensuite, la pelouse, elle est plutôt, elle est façonnée par l'homme, on va dire, hein. elle est semée par l'homme. Donc nous, à La Roche-sur-Yon, on a plusieurs styles de pelouse, hein. On a les pelouses, pelouse du centre-ville, pelouse des terrains de foot, pelouse de l'hippodrome, pelouse des crèches, des écoles. Enfin, on a une multiplicité de pelouses, si on peut dire. On considère sur nos 500 hectares d'espace vert, 550 hectares d'espace vert, on considère qu'on a 200 hectares de surface, on va dire.
En gazonnée, d'accord. Et chez soi, on a des variétés. Si on arrive dans une maison, typiquement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre pelouse. On a tous la même variété d'herbes qui poussent ou il y a vraiment plusieurs types de pelouses?
Il y a plusieurs types de pelouses. Déjà, si vous rachetez une maison et il y a déjà une pelouse en place, c'est difficile de savoir exactement ce que c'est comme mélange, on va dire. Ensuite, pour les pelouses, on va dire neuves, entre guillemets, il existe une multiplicité de mélanges qui sont toutes à base... généralement de régras, hein. Donc après, vous pouvez choisir différents mélanges. Il en existe une multitude. Donc ça, il faut pour un particulier, le plus simple, c'est d'aller dans une jardinerie et puis de choisir s'il veut une pelouse d'ombre, une pelouse de terrain sec, etc. quoi.
Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui résistent mieux que d'autres à la sécheresse? Je sais que c'est quelque chose que vous avez quand même beaucoup travaillé à La Roche-sur-Yon, la hausse des températures et les périodes de sécheresse?
Alors, La Roche-sur-Yon, on a une problématique comme beaucoup de villes en France, hein. On est dans une région où on a un déficit hydrique très tôt dans la saison. Alors, cette année, c'est encore pire, hein, parce que là, on est déjà en phase sécheresse, on va dire. C'est sûr que s'il n'y a pas du tout d'eau, à un moment donné, au bout de 2 ou 3 mois, il n'y a plus du tout pratiquement plus de vert, on va dire, entre guillemets, hein. La pelouse est complètement grillée. Nous, on a fait le choix à La Roche-sur-Yon de pas trop arroser parce qu'on a des arrêtés préfectoraux qui arrivent très tôt dans la saison. Donc, toutes nos pelouses, même en ville, ne sont pas arrosées, sauf en centre-ville et sur les terrains de foot. Par contre, quand les arrêtés préfectoraux arrivent, on coupe tout. Hein, on garde que le goutte à goutte sur nos massifs floraux si on peut. Donc, certaines années, bah, la ville elle n'est pas très verte quand on arrive fin août ou septembre. C'est une de nos problématiques majeures, hein, la gestion de l'eau. Donc là, on est en train de faire une étude avec un cabinet spécialisé pour voir comment on peut gérer au mieux cette problématique sur les terrains de foot. Et l'idée, c'est de récupérer l'eau d'arrosage. C'est-à-dire que comme on arrose tous les jours les terrains de foot, et les terrains de foot sont super drainés, bah, ça repart direct dans le réseau pluvial. Et l'idée, ça serait de récupérer ces eaux d'arrosage pour les réutiliser. Et on utilise aussi, pour nos terrains de foot, on utilise l'eau de surverse de la piscine. C'est-à-dire qu'on, vous voyez, sur les piscines municipales, il y a toujours l'eau qui déborde sur les côtés. On récupère cette eau pour arroser nos terrains de foot.
D'accord, super. Un particulier, du coup, il peut avoir un récupérateur d'eau, il peut essayer de récupérer.
Un récupérateur d'eau pour arroser le gazon, c'est un peu compliqué. Bon, un particulier, si ça dépend de la surface, est-ce qu'il y a un réel intérêt à arroser son gazon?
Ouais, bah d'ailleurs, c'est une des questions. Est-ce qu'on arrose sa pelouse ou est-ce qu'on arrête et est-ce qu'elle repart si par exemple elle grille complètement l'été?
Oui, ça repart. Bon, après, ça dépend. Si vous avez une sécheresse comme en 1976, là, c'est sûr que vous serez obligé, si vous arrosez pas, de recevoir. Mais après, un particulier, ce qu'il peut faire, c'est plutôt un arrosage, de sécurité, ou c'est arroser un minimum pour maintenir le soir un petit peu une certaine fraîcheur, pour essayer de garder un petit peu son gazon un petit peu vert. Mais je pense pas, avec le réchauffement climatique, que ça soit judicieux que les particuliers arrosent leur gazon. Hein.
Bah parfait, on arrête alors l'arrosage. Si on part de zéro, imaginons qu'on a une nouvelle maison et pas de pelouse, quand est-ce qu'on peut semer la pelouse? Est-ce qu'il y a un moment plus opportun que l'autre?
Il y a deux périodes. Alors nous, on est dans l'ouest, alors je ne sais pas si peut-être que dans le sud, c'est un petit peu différent, mais il y a deux saisons pour créer un gazon. Hein. Donc c'est le début du printemps, mars-avril, où là, il faut que le gazon s'installe avant l'été. Donc là, souvent, il y a besoin quand même d'un arrosage. Et la meilleure période, c'est septembre-octobre, où là, il n'y a pas forcément besoin d'arrosage, qu'il y a des apports naturels qui font que l'eau de pluie suffit et le gazon s'enracine avant l'hiver. Et puis après, c'est gagné pour le printemps suivant.
Ok, super. Et comment ça se sème, le gazon? C'est vraiment comme un semis de
fleurs? Déjà, il faut préparer le sol. Donc, si vous avez, alors pour un particulier, ça dépend de la surface. S'il a 100 mètres carrés, il peut presque tout faire manuellement. Par contre, au-dessus 100 mètres carrés, il faut des engins. Donc, c'est soit un motoculteur ou soit petit tracteur avec rotovator derrière. Hein. Il faut préparer le sol. Bien le niveler, le griffer, ensuite soit il faut semer à la main ou semer avec un semoir et choisir sa graine. Ensuite, il faut recouvrir la graine en faisant un griffage croisé et rouler, tasser un petit peu.
Ah oui, il faut tasser.
Ouais. Alors, ce qui est important, c'est le choix de la graine, c'est la préparation du terrain, la planimétrie. Il faut éviter les bosses. Hein.
Ah oui.
Donc, il faut avoir un bon petit coup de main, on va dire. Hein. Mais bon, normalement, les bons jardiniers savent faire ça. Mais un particulier peut s'en sortir aussi. Hein.
Ok, super. Et une problématique beaucoup plus courante, du coup, c'est une pelouse qui est ancienne et qu'on n'a pas forcément ni le temps ni l'argent de tout refaire, qui a des trous, par exemple, ou qui est mal entretenue. Est-ce qu'on peut quand même rattraper un peu ou est-ce que...
Ouais. Ça dépend le niveau de... le niveau de difficulté, on va dire. Si c'est, il y a plus d'herbe du tout, bon, c'est peut-être bon de tout refaire, mais certaines fois, on s'aperçoit que à la sortie de l'hiver, bon, le gazon est pas terrible, il y a de la mousse, il y a plus trop. Bon, là, on peut le rattraper, ça. Alors, si on a une petite surface, on retire la mousse au râteau. Et on peut faire des petits trous dans le gazon avec une fourche. Et puis, on fait un mélange de terreau, par exemple, avec des graines. Et puis, on sème comme ça en surface. On arrose et ça peut fonctionner. Après, si vous avez des surfaces plus vastes, là, et ben, il faut du matériel spécifique, hein, du matériel mécanique. Hein. On peut rattraper une pelouse. Hein. C'est ce qu'on fait sur les stades tous les lundis après les matchs de rugby ou les matchs de foot. Hein.
Oui, je me doute. Mais même chez les particuliers, il peut y avoir des chiens qui grattent, des enfants qui font des trous.
En fait, un gazon, on peut tout au long de l'année, on peut essayer, pour un particulier, on peut essayer de l'améliorer. Ah, on peut lui apporter des soins toute l'année.
On lit souvent qu'il faut scarifier sa pelouse ou qu'il faut faire comme des petits trous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, scarifier la pelouse, c'est ce qu'on appelle le défeutrage. Hein. Si vous avez une pelouse bien garnie, les racines couvrent le sol et en fait, l'herbe, les nouvelles graines ne peuvent plus respirer. Donc, c'est un scarificateur, c'est un outil mécanique qui coupe transversalement les stolons des racines, hein, et ça permet d'aérer le gazon, hein, et ça donne de l'espace pour les nouvelles graines.
D'accord, donc trop dense, c'est pas bien non plus en fait.
Trop dense, c'est pas bien non plus. Hein. Il faut gérer la densité en fait.
Une question de saison, en tout cas chez moi, c'est reparti, tout le monde tond sa pelouse tous les trois jours, c'est l'enfer. Est-ce qu'on peut tondre différemment, de manière un peu plus peut-être écologique ou un peu plus manuelle, en termes d'outils ? Est-ce qu'on peut tondre, voilà, on entend souvent qu'il faut tondre un peu plus haut, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est dangereux pour la pelouse ? Enfin...
Les gens ou même les professionnels ont tendance à croire que la tonte, c'est basique comme technique. Mais maintenant, avec la gestion différenciée des espaces verts, il y a beaucoup de nouvelles techniques. Le métier de jardinier ou même le jardinier amateur, c'est un métier d'observation. Donc, ça dépend le résultat que vous voulez obtenir. Si vous voulez un gazon super clean, golf et tout, bon bah là il faut tondre régulièrement, peut-être pas tous les trois jours, mais un particulier s'il tombe toutes les semaines, déjà c'est déjà bien. Après ça dépend s'il ramasse l'herbe, s'il la ramasse pas.
D'accord. Alors c'est quoi l'utilité ? Parce que moi typiquement nous on tombe en ce qu'on appelle mulch, donc on va peut-être en parler. Quel est l'intérêt pour le gazon ? Alors nous on utilise ensuite l'herbe ramassée, mais on peut aussi la laisser non, sur le gazon.
Bah, le mulch, vous laissez le gazon sur place.
Oui.
Quand vous faites du mulching, il faut tondre régulièrement pour pas que l'herbe soit trop haute. Et ensuite, l'herbe, elle est recoupée par la tondeuse plusieurs fois, ce qui fait que le brin, au lieu de faire 5 cm, il fait peut-être 5 mm. Cette multiplicité de brins se décompose et amène de la matière organique. Donc, ça fait un engrais naturel, en fait. Bon, alors nous, on utilise le mulching hein, sur nos espaces verts. On ramasse presque plus rien. Sauf sur les stades et les jardins de centre-ville. Ce qui fait que ça représente peut-être même pas 10% de nos surfaces gazonnées. Sur toutes les autres surfaces, on fait ce qu'on appelle de la gestion extensive, hein, de la tonte extensive. Alors là, il y a pas mal de méthodes. La première méthode, c'est de faire des prairies naturelles. Donc, c'est de laisser pousser l'herbe. Ensuite, on essaye de faire de la gestion différenciée, c'est-à-dire de la tonte à différentes hauteurs. Donc, ça a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est visuel. Parce qu'en fait, un gazon, sur des grandes surfaces, un gazon tondura, même visuellement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, ce qui est intéressant, c'est au niveau paysager, d'avoir différentes hauteurs d'herbe. En plus, quand le vent se met dedans, bah, ça bouge, les graminées bougent et tout. Au visuel, c'est super agréable. Et aussi, le tondeur, il peut faire des tracés et donc donner une certaine légèreté à l'espace. C'est beaucoup plus agréable à l'œil qu'une tonte basique. Après, on peut aussi faire... Alors nous, ce qu'on pratique, généralement, on fait un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'en fond de parcelle, on fait des prairies. Ensuite, on fait une tonte différenciée sur quand on se rapproche du bord, des allées. Et sur les allées, au bord des allées, sur une largeur de 2 mètres, on tond régulièrement en mulch pour donner un aspect de passage régulier pour que les gens sentent que le jardinier est bien présent et qu'on gère l'espace, en fait.
Tout à fait. Mais on peut faire pareil chez soi, du coup. On peut laisser des espaces un peu plus hauts.
Tout à fait, on peut faire pareil chez soi, mais c'est une autre approche du jardin. Hein. C'est une approche plus naturelle, c'est une approche plus réfléchie. Et si par exemple, un particulier qui a un jardin de 700 ou 800 mètres carrés, il peut tout à fait pratiquer une tonte différenciée. C'est-à-dire que au pied de ses arbustes, par exemple, il laisse l'herbe un peu plus haute, et puis après, plus il se rapproche de sa maison, bah là, il tond régulièrement. Et il aura un aspect de son jardin totalement différent.
Je confirme. Mais du coup, si on laisse des parties alors complètement sauvages, ça, c'est sûr que ça va pousser, mais même plus hautes, alors vous parlez de fauche, comment on fait ensuite? Est-ce qu'il faut quand même couper même l'herbe très haute ou ce qu'on laisse pousser?
Pour le particulier, je pense que la fauche, c'est un peu compliqué, sauf pour les particuliers qui ont vraiment des grands jardins, des grands espaces, on va dire un hectare par exemple, où bon, là, ça peut être envisageable. Pour faire de la fauche, il faut avoir du matériel déjà, il faut être équipé. L'intérêt de la fauche, c'est surtout un intérêt sur la diversité. Parce que vous laissez l'herbe haute, bon bah il y a tout le cycle des insectes, des animaux qui se met en place. Donc ce qu'on pratique nous, c'est sur nos grandes parcelles de fauche. Donc on a déterminé des parcelles sur l'ensemble de la ville où on fait de la fauche, et c'est-à-dire qu'on laisse pousser suivant la pluviométrie jusqu'à juillet. Juillet, généralement on fauche en juillet. On essaye de faire une fauche tardive pour que les plantes soient bien montées à graines. Donc là, la pelouse, l'herbe, elle est montée à 50 ou 70 cm, hein, suivant la pluviométrie. Ensuite, on fauche, on s'est équipé avec du matériel spécifique, mais on n'a rien inventé, hein, c'est du matériel agricole. Hein. Donc la rotofaneuse, un roomballeur, on a un roomballeur qui fait des balles de 120 cm. Et on fait du foin à deux pas du centre. À deux pas du centre-ville.
Ok, super. Donc un particulier peut-être laisser pousser un peu moins haut, non? Ça c'est peut-être la technique.
Alors un particulier, oui, ce qu'il peut faire, ce qui est de plus en plus pratiqué, c'est ce qu'on appelle la tonte différenciée. Donc, c'est-à-dire, en début de saison, la première tonte, vous tondez partout.
Ouais.
Et ensuite, vous sélectionnez des parcelles que vous allez laisser pousser. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, vous essayez de faire des tracés paysagers ou à l'anglaise un petit peu. Hein. Peut-être pendant une dizaine de tontes, vous allez laisser ce côté de jardin plus haut, ce qui va vous donner une différence de hauteur et ça va faire vivre votre jardin à coût zéro. Hein. Vous allez même gagner de l'argent parce que vous allez moins tondre.
Vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il faut nourrir sa pelouse? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut mettre du compost? Est-ce que c'est un intérêt?
Nous, on essaye de limiter un maximum les intrants, hein, tout ce qui est engrais. Alors déjà, on est au zéro phyto, hein, donc on est au zéro phyto depuis 2010. Donc, plus de désherbage chimique, alors surtout pour les particuliers, pitié, ouais, pas de désherbage chimique. Hein. Ensuite, il faut essayer de limiter les intrants au maximum. Bon, on peut faire en début de saison un apport d'engrais à base d'azote, hein. Ça peut se faire, mais bon, nous on le fait que sur nos jardins de centre-ville. Hein. Bon, un particulier, oui, il peut y avoir un apport d'engrais, dit engrais retard, hein, donc qui se décompose lentement en début de saison. Si le particulier prend le parti aussi de régénérer sa pelouse, c'est-à-dire faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, faire un peu des exercices mécaniques pour essayer d'enlever la mousse, etc., il peut, oui, faire un apport de matière organique avec du terreau ou ce genre de produit, ouais. Mais il faut essayer d'être, pour un particulier, il faut essayer d'être le plus naturel possible.
On est bien d'accord. On va en parler d'ailleurs, parce que vous nous parlez de la mousse, mais évidemment, quand on laisse un peu sa pelouse pousser, on voit des pâquerettes, des pissenlits, sans doute de la mousse, du trèfle. Alors que nous, on aime beaucoup chez Vert Magazine, mais que les gens, évidemment, essayent de combattre. Est-ce qu'on peut en garder? Quel est l'intérêt? Comment faire pour peut-être ne pas être envahi non plus?
Les pâquerettes, ce n'est pas un problème, bien au contraire. En ce début de printemps, nous, à La Roche-sur-Yon, toutes nos pelouses étaient... c'était un champ de pâquerettes, on va dire. C'était magnifique, d'autant plus qu'avec la Covid, c'était une expérience un petit peu particulière parce qu'on a pris du retard dans nos tontes. Et en fait, les pelouses ont poussé beaucoup plus hautes, on va dire, que d'habitude. Et on s'est aperçu qu'on avait vraiment des pâquerettes partout, sur tous nos espaces. Et c'était vraiment magnifique. Donc maintenant, on essaye de tondre un peu plus haut en période printanière, justement, pour voir ce champ de pâquerettes. Alors, la mousse, c'est plus problématique. Alors, généralement, la mousse, c'est que le terrain est acide, un pH acide. C'est qu'il peut y avoir, surtout dans les petites parcelles, l'impact de la maison donne beaucoup d'ombre sur le jardin. Et souvent, il y a trop d'ombre, donc ça favorise la mousse. Donc la mousse, soit faut faire un amendement calcique, hein. Mais le mécanique, ça marche très bien aussi, hein. Essayer de la retirer. Ouais. Et puis après, faire un sursemis, hein. Donc ressemer derrière, avec un apport de matière organique, et ça marche très bien. En fait, le particulier, il peut être moi-même, des fois, dans mon jardin, je suis un peu, quand je vois l'état de la pelouse à la sortie d'hiver, je me dis, c'est pas terrible, et c'est assez facile à régénérer.
Alors, vous êtes quand même assez calé biodiversité, donc ça, on pourra le découvrir dans le prochain numéro, du coup, avec le prix que vous avez eu.
Je ne suis pas le plus calé en biodiversité, comme en gazon, parce qu'un service comme le nôtre, c'est un travail d'équipe. Hein. Donc, notamment sur les gazons, le plus calé, c'est mon collègue des terrains de sport, on va dire.
On a moins besoin d'un terrain de sport à la maison, en général, quand même.
Et à La Roche-sur-Yon, en biodiversité, on a deux collègues qui sont très calés aussi, parce qu'ils ont plutôt un profil naturaliste.
Du coup, il y a quand même un intérêt aussi à laisser un peu pousser la pelouse, à laisser venir les pâquerettes, quelques pissenlits. Évidemment, c'est de donner à manger à certains animaux ou de donner un refuge à certains insectes. Est-ce que vous avez vu la différence en termes de venue d'insectes, etc., à faire différemment en fait la gestion de la pelouse ?
Oui. Alors déjà, c'est flagrant avec les prairies de fauche, où là, on a un cycle d'animaux qui est beaucoup plus riche. Hein. On voit les insectes, on voit les oiseaux, on voit les hérissons. Ça, c'est indéniable. Après, quand on fait le gazon intermédiaire en laissant pousser à diverses hauteurs, c'est pareil, oui. On voit qu'il y a beaucoup plus d'insectes et d'oiseaux. Moi, dans mon jardin, j'ai une multitude d'espèces d'oiseaux que je vois arriver. Mais il y a aussi, il n'y a pas que le gazon. Il y a aussi les zones boisées, les zones arbustives.
Tout à fait.
Bon, ça, c'est indéniable.
Il n'y a pas de souci parce que les gens ont souvent peur aussi de laisser pousser, de voir venir plus de moustiques, plus de tiques, plus d'insectes qu'on n'aime pas trop généralement avoir près de sa terrasse. Est-ce que tout ça se régule ? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, peut-être ?
Je pense que ça se régule. Hein. Après, il faut gérer. Si vous avez une terrasse, il faut tondre autour de la terrasse et puis repousser un petit peu l'espace plus haut, un peu plus loin. Au contraire, toute cette vie, insectes, oiseaux, ça donne de la vie au jardin. Vous vous mettez dans votre chaise longue et puis vous observez. Tandis que si vous avez un gazon ras, vous observez rien du tout. Hein.
Alors maintenant, c'est devenu à la mode, c'est les prairies fleuries. Donc c'est de faire un coin même petit chez les particuliers en semant des mélanges de fleurs qu'on trouve diverses et variées. Mais c'est pas si simple quand même pour avoir expérimenté la chose. Entre ce qu'on sème, évidemment, il y a certaines variétés qui vont être très très fleuries, très très jolies, peu de temps en réalité. Et qu'est-ce qu'on en fait après ?
C'est souvent le après qui pose problème.
Mais voilà.
Alors, non, il y a deux problèmes. C'est la mise en place et le après. Alors, la mise en place, pour un particulier, c'est faisable, mais il faut quand même être un bon jardinier parce qu'il faut retourner le sol ou il faut quand même travailler le sol et puis faire un semis, fleuri. Bon, là, c'est pareil. Hein, vous allez en jardinerie, vous allez en trouver une multitude, hein, soit avec des plantes annuelles, soit avec des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, etc. Faut quand même être un bon jardinier pour introduire ça dans son jardin. Après, comment on le gère? Parce qu'une fois que c'est défleuri, c'est pas toujours très beau. Mais c'est faisable. C'est plus adapté au jardin quand même de particulier d'une certaine grandeur. Après, ce que vous pouvez pratiquer, si vous avez un petit jardin, c'est plutôt les semis en pied de mur ou c'est plus facile.
Ce que j'allais vous dire, est-ce que c'est pas plus simple? Typiquement, chez moi, j'ai des bulbes dans certains coins de la pelouse, des jonquilles. Est-ce qu'on peut peut-être plutôt incorporer certaines fleurs à certains endroits?
Alors, c'est plus facile, par contre. Les bulbes de printemps, ce qu'on appelle les bulbes naturalisés. Admettons, vous avez 50 bulbes. Vous prenez un outil, hop, vous soulevez la pelouse, vous mettez le bulbe en dessous, ça pousse. Hein. Ça c'est assez facile. Nous, ce qu'on pratique sur nos espaces verts, on fait du bulbe de printemps à végétaliser. Donc on a une machine spécifique et on enterre les bulbes. Maintenant, on le fait aussi en période estivale, avec notamment des mélanges de dahlia. Ça se fait aussi en période estivale. C'est des nouvelles techniques qui arrivent. On l'a pratiqué. Le problème de ça sur une ville, c'est que les mélanges se ressemblent souvent et on va retrouver les mêmes mélanges sur toutes les villes. Au niveau biodive, je suis pas certain que ce soit terrible, quoi, parce que les espèces horticoles attirent quand même moins les insectes que les espèces dites indigènes. Par contre, c'est un côté visuel et paysager intéressant.
Ouais. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, vous nous en avez parlé dans l'interview donc pour le prochain numéro, mais de favoriser quand même plutôt les plantes locales, plantes qui poussent chez nous, et voir parfois des plantes sauvages dont on peut ramasser les graines autour de chez nous, etc. Est-ce qu'on peut incorporer ça aussi à sa pelouse? Comment on fait?
Pour un particulier, c'est peut-être assez compliqué d'incorporer ça dans sa pelouse. Par contre, incorporer ça dans un massif de son jardin, oui. C'est ce qu'on a essayé de faire à La Roche. On a essayé de... Par exemple, vous prenez le bouillon blanc, qui est une plante naturelle assez impressionnante, qui peut monter à 1,50 m. On a sélectionné certaines plantes dites indigènes et on a essayé de les introduire à nos massifs horticoles pour essayer d'amener un peu plus d'insectes sur nos massifs et qu'il y ait une autogestion qui soit plus régulée. On a une petite rivière qui traverse la ville et à certains endroits, on a créé des petits espaces de plantes indigènes. Donc, c'est des essais pour l'instant, mais après, le métier de jardinier, c'est un métier d'expérience aussi.
Tout à fait. On aime bien, mais même à la maison.
On aime bien tenter des choses. Des fois, ça ne marche pas, mais des fois, ça fonctionne. Et puis, ça interpelle aussi le citoyen. Et on a pas mal de retours, les gens... Autant on a des retours d'expérience, enfin on a des gens qui nous posent beaucoup de questions sur la palette végétale qu'on utilise. Je vous invite à venir à La Roche-sur-Yon. Si vous venez à La Roche-sur-Yon, vous allez voir que on a une palette végétale qui est relativement riche, horticole en ville, mais aussi maintenant, plus on s'éloigne de la ville, plus on réintroduit des plantes indigènes et les gens, ça les interpelle. Alors, on essaye de faire un petit peu de com' avec des étiquettes ou des articles.
Là, on est en mai. Alors, il y a tout un mouvement qui a été créé qui explique qu'il faut éviter de tondre en mai puisque c'est la période où il y a un maximum de fleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire en mai? Là, il fait assez chaud partout. Donc, est-ce que c'est peut-être laissé tranquille? D'ailleurs, est-ce qu'on laisse un peu plus haut en prévision de l'été?
Ça, c'est oui. Ça, alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas tondre toujours à la même hauteur. Déjà, ça évite que les plantes soient coupées toujours au même endroit. Donc, ça les fragilise si on coupe toujours au même endroit. Et ce qui est, en fait, le système racinaire correspond à peu près à la partie aérienne. Donc, plus vous allez laisser pousser, plus votre plante va se renforcer et plus le système racinaire va être fort. Et donc, ça permettra de résister mieux à la sécheresse, même aux intempéries diverses. Donc oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de varier la hauteur de tonte et tondre un peu plus haut.
Ouais. Bah super, je vais l'envoyer à mes voisins pour qu'ils arrêtent de tondre trop souvent.
Vous leur dites d'arrêter de tondre le dimanche matin, surtout si c'est des retraités.
Ça, exactement. On finit avec nos deux dernières questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire, mais on aime bien demander une petite recommandation de livres, de choses à voir. Alors, ça peut être tout à fait de venir à La Roche-sur-Yon, évidemment, aussi.
Ouais, alors, sur les livres, moi, j'ai fait une petite sélection de livres professionnels. Enfin, c'est surtout des revues qu'on s'inspire beaucoup. On essaye de regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'on a tous à apprendre des autres. Et donc, nous, on a des lectures assez classiques, hein, donc le cahier du fleurissement, paysage actualité, espace public et paysage, et le lien horticole, entre autres. Hein.
Bon, je rajoute aussi comme recommandation de venir voir les espaces verts de La Roche-sur-Yon.
À titre d'anecdote, hein, toutes les villes de l'Ouest gagnent beaucoup d'habitants, et nous, on invite les habitants deux fois par an à venir découvrir la ville. Ça s'est passé ce week-end, et ce week-end, on avait 150 personnes, hein, c'était organisé par les collègues de la communication chez nous, et ça m'a fait quand même plaisir, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ils venaient de la région parisienne, hein, et ils m'ont dit qu'ils avaient choisi La Roche-sur-Yon pour la qualité de ses espaces publics et de ses espaces verts. Donc là, je me suis dit, on est des vrais pros.
Exactement.
Nous sommes des vrais pros.
Et un dernier petit conseil, on aime bien demander un conseil pour voir la vie en vert. Alors, ça peut être évidemment de sortir.
Alors, moi, ouais, alors, pour moi, le conseil, enfin, c'est pas un conseil, mais c'est plutôt l'expérience qui me fait dire ça. Alors, déjà, il faut, pour être un bon jardinier, il faut voir la vie en vert, il faut être observateur.
Tout à fait.
Un bon jardinier, c'est quelqu'un qui est observateur. Il faut savoir respecter l'existant et essayer d'améliorer par petites touches avec beaucoup d'humilité.
Bah, parfait. Je vous remercie. J'invite évidemment tous nos auditeurs à commander le prochain numéro où vous allez retrouver une interview du coup, donc de vous, de Christian, mais aussi de Raphaël qui était en charge du service biodiversité. Donc voilà, on a parlé de votre prix capital et de tout ce que vous avez fait à La Roche-sur-Yon, de voilà, comment on fait pour gérer des espaces verts avec cet objectif de préserver et d'attirer la biodiversité. Donc c'était hyper intéressant. Et je vous remercie, je vous laisse à vos espaces verts quand même. Vous avez sans doute beaucoup de choses à faire. Et de notre côté, on va arrêter de tondre pour le moment. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Est-ce que vous saviez qu'on utilise en moyenne entre 20 et 50% de sa pelouse, peu importe la taille de son jardin ? C'est une bonne excuse pour la gérer différemment d'un stade de football ou d'un terrain de golf. Les conseils de Christian à retenir sont assez simples. On sème plutôt une nouvelle pelouse à l'automne, on évite au maximum l'arrosage, même si la pelouse jaunit en été, elle repartira au mois de septembre. On entretient certaines zones à refaire petit à petit tout au long de l'année, des trous par exemple ou l'apparition de la mousse. On enlève ce qu'il faut, on gratte et on ressème un mélange de gazon et de terreau. Évidemment, on tasse bien, on arrose un peu au démarrage et voilà. On peut aussi appliquer la gestion différenciée chez soi. Elle consiste à tondre plus haut au fur et à mesure qu'on s'éloigne des lieux de vie, la terrasse ou les aires de jeu des enfants par exemple, et même à laisser quelques espaces non tondus, notamment au bord des haies. L'intérêt de laisser un peu la tondeuse au garage est de permettre l'apparition de fleurs mellifères, comme l'emblématique pâquerette ou les pissenlits, qui vont nourrir plusieurs insectes. Une herbe plus haute, c'est aussi un refuge pour de nombreux animaux. Et petit à petit, un équilibre va s'installer. Si vous permettez l'arrivée des coccinelles et des hérissons, vous aurez moins de pucerons et moins de limaces. Enfin, une pelouse plus haute, même dans les espaces de vie, résiste mieux à la sécheresse. Si vous souhaitez une pelouse beaucoup plus écologique, il y a plusieurs solutions en fonction de votre climat et de la nature de votre sol. Une pelouse mixte, c'est une pelouse classique mais qui fait la part belle aux espèces que l'on considère parfois comme mauvaises herbes. Le plus simple est de laisser pousser votre pelouse afin de voir arriver les espèces indigènes à votre jardin et de couper le plus tard possible après la floraison. Les plantes couvrantes sont aussi une bonne option, il en existe pour tous les types d'expositions. Enfin, la prairie fleurie, très à la mode, demande quand même un peu de savoir-faire. Le semis peut être difficile, il faut bien préparer la terre et la floraison est souvent courte. Privilégiez plutôt un coin du jardin pour commencer et des mélanges de fleurs plutôt basses et locales. Plus simple, vous pouvez incorporer des fleurs à votre pelouse, sur les bordures, au pied des massifs ou dans certains coins peu utilisés. Des bulbes printaniers ou des dahlias, mais aussi des primes verts, de la camomille rampante ou du géranium vivace. Si le sujet vous intéresse, il y a de nombreux livres sur la thématique désormais. Chez Vert, on a beaucoup aimé le petit guide « Je crée ma pelouse écologique » aux éditions Larousse pour avoir une idée d'ensemble de toutes les options possibles chez soi. Voilà, vous avez plein d'idées pour occuper vos week-ends autrement qu'avec votre tondeuse. La Voix Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Veir Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.